Alors aujourd'hui, je vous propose de célébrer une sorte d'anniversaire en ce 31 août. Il y a exactement 70 ans, le futur Saint Jean XXIII venait à Paray-le-Monial en tant que nonce apostolique. Il est donc venu ici pour une célébration, pour faire un pèlerinage auprès du cœur de Jésus. Et ça s'est donc passé il y a exactement 70 ans. Je rappelle donc que Mgr Ancali était nonce apostolique pendant 9 ans, en poste à Paris, après quoi il a été nommé par le pape Pie XII, patriarche de Venise. Il a été créé cardinal, et en 1958, donc octobre 1958, il devait être élu pape. Son pontificat n'a pas été très long, mais a été extrêmement intense, bien sûr, à cause de la convocation du Concile Vatican II. Et il est retourné à Dieu en juin 1963. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer d'évoquer ce que nous pouvons de cette mémorable journée d'il y a 70 ans. Et puis, ensuite, j'ai un petit peu glané dans différentes paroles. Simplement, ce sera un petit peu une petite exploration, une promenade, si on peut dire, spirituelle, à travers la spiritualité de ce très grand saint de notre temps. Et je terminerai par quelques paroles, si le temps m'est laissé, que Jean-Paul II a pu prononcer à diverses reprises sur Jean XXIII. Alors tout d'abord, dans le journal local de l'époque, alors qu'il est nonce apostolique en France, Mgr Ancali, le 31 août exactement, 1947 donc, préside un grand rassemblement de jeunesse catholique à Paray-le-Monial. L'immense défilé des jeunes avait emprunté l'avenue de Charolles, et c'est du haut des escaliers du Hiéron, transformé en une sorte de podium, que le prélat embrasse ainsi du regard une perspective grandiose. En fait, il y a eu plusieurs lieux de cérémonie. Un premier lieu avait été le parc des Chapelains, le dôme, et puis finalement donc le Hiéron, où effectivement il y avait une possibilité de perspective sur l'avenue de Charolles. Reçu à l'hôtel de ville par le maire, Mgr Ancali avait évoqué un pèlerinage à Paray-le-Monial au début de son sacerdoce. Et au cours des cérémonies religieuses, on a pu l'entendre déclarer, donc la phrase suivante, « Lourdes et Paray-le-Monial sont les deux pôles de la France ». Avant de relater un peu plus en détail le déroulement de cette journée, quelques souvenirs donc des passages du futur Jean XXIII ici dans la cité du Sacré-Cœur, car ça n'a pas été le seul passage. Déjà en 1905, pour la première fois il est venu ici, il était séminariste. Et il y est allé lors d'un pèlerinage à Lourdes et à Ars. Et il s'est donc arrêté à Paray-le-Monial, où il devait rencontrer le cardinal Perrault, évêque d'Autun de l'époque, et je rappelle donc fondateur du pèlerinage et de l'institution des pères chapelains. Et plus tard donc, parce que la veille de ce passage à Paray-le-Monial, donc le 30 août, Mgr Ancali était aussi à Autun, pour le dévoilement d'une statue et surtout d'une place portant le nom de cardinal Perrault. Et là, il devait dire à quel point il avait été impressionné par ce grand prélat, académicien, et son humilité en même temps, et sa stature. Donc il l'avait rencontré une première fois comme séminariste. Alors maintenant, en 1946, il est nonce à Paris, et il arrive incognito cette fois-ci, de la Salette. Il rencontre la communauté des sœurs, ici à la Visitation, et célèbre la messe conventuelle. En 47, donc, sur l'invitation de l'évêque, il vient présider le pèlerinage des jeunes à Paray. On parle de 12 000 jeunes présents. Le commentateur a cru bon d'ajouter, ce n'est pas moi, et ce n'est pas d'aujourd'hui que des jeunes viennent à Paray, évidemment. Donc les jeunes, ça n'a pas commencé avec le forum des jeunes en 1984, mais déjà, donc en 1947, la présence de Roncalli a pu rassembler un grand nombre de jeunes. Alors il y a encore un passage à Paray le Monial en 1952, alors qu'il est déjà patriarche de Venise. Il vient visiter des prêtres italiens au cours de leur retraite à Paray le Monial. Maintenant, il y a eu aussi des relations avec la communauté des sœurs ici, de la Visitation. En 1959, alors la première année de son pontificat, puisqu'il a été élu en octobre 58, donc en 59, en la première fête de Sainte Marguerite Marie de son pontificat, il envoie un télégramme au monastère. En 1960, il réserve un cierge béni le 2 février à la chapelle des Apparitions. Et en 1962, alors là ce sont les sœurs qui parlent, il nous fait remettre une médaille portant son effigie par l'entremise de notre évêque Monseigneur Lebrun. Je rappelle que 1962 c'était l'ouverture, l'année de l'ouverture du concile. Et donc là, il a bien fallu qu'il garde très précieusement Paray le Monial, on le verra d'ailleurs après, dans son cœur, pour penser, alors qu'il était un peu dans la fièvre de tous les préparatifs, eh bien, il fait remettre une médaille aux sœurs ici. Alors, je voudrais lire quelques extraits, je ne peux pas tout lire parce que ce serait un peu long, du compte-rendu de cette journée du 31 août, tel qu'il a été publié, ce compte-rendu, dans Semaine religieuse d'Autun, Chalon et Mâcon. Ce compte-rendu a été publié, en fait, le 13 septembre 1947. Alors, on parle de l'impressionnante manifestation de foi, d'amour, d'espoir dans l'avenir, qui s'est déroulée le dimanche 31 août à Paray. Dans l'atmosphère fervente du solennel jubilé, en présence de Son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique et de Monseigneur Lebrun, l'évêque d'Autun à l'époque. Des milliers de jeunes gens, de jeunes filles, ont voulu prouver en répondant nombreux à l'appel de leur évêque, et ils ont voulu prouver que la jeunesse de Saône-et-Loire n'a pas démissionné devant les forces négatives qui cherchent à l'entraîner, mais qu'il est permis de fonder sur elle, sur cette jeunesse, de splendides espérances de renouveau. Car venir à Paray, c'est croire en l'amour du Christ et c'est se préparer à vouloir répondre avec plus d'enthousiasme à cet amour en devenant, comme le veut notre Seigneur, le ferment efficace du monde nouveau qui lentement se construit. Alors le chroniqueur commence un peu son compte-rendu, comme ça. Dès 8 heures, les premiers groupes arrivent et participent, les uns après les autres, aux visites collectives organisées dans les 3 sanctuaires. À l'hôtel de ville, Son Excellence Monseigneur Roncalli, accompagné de Monseigneur Lebrun, est salué en termes délicats par Monsieur le maire de Paray, entouré des membres du conseil municipal. Entre-temps, la foule des jeunes a envahi le parc des Chapelains. Les jeunes gens occupent la grande allée face au dôme. Les jeunes filles sont de part et d'autre sur la pelouse. Alors voici que s'avance vers le dôme le cortège pontifical, précédé des fanions multicolores des divers mouvements de jeûne. 10 000 voix lancent vers le ciel le cantique « Plus près de toi, mon Dieu ». Ce n'est pas encore celui qu'on chante dans le carnet vert, hein, qu'on doit à Jean-François, le gendre de Nicole ici présente. Donc ce n'était pas encore le cas en 47. Mais c'est le « Plus près de toi, mon Dieu » qu'on connaît par ailleurs. Un peu pompier pour nous maintenant. Pendant que se déroulent les fastes de la messe pontificale, célébrée par Monseigneur le Nonce, alors il y a un commentaire au micro qui donne des explications et entraîne les chants. La chorale de Paray exécute le propre de la messe du Sacré-Cœur, l'assistance recueillie jusque dans ses secteurs les plus excentriques répond comme en une immense clameur au chant du commun. Alors ensuite, nous allons dire quelques mots sur le déroulement de cette messe. À la communion, le nombre de ceux et celles qui viennent recevoir le corps du Christ dépasse toute attente. Déjà depuis le matin, des centaines de communions ont été distribuées dans les différents sanctuaires. Cette fois, durant une demi-heure, 1 500 jeunes, peut-être davantage, s'approchent de la Sainte Table, pendant que l'assistance entière chante inlassablement sa louange à l'Eucharistie. À l'issue de la messe, avant de donner la bénédiction papale, c'est-à-dire donc au nom du pape, bien sûr, il est le représentant du pape à ce moment-là, Son Excellence Monseigneur le Nonce Roncalli, dont l'attitude et le ton de la voix respirent la bonté paternelle, dit à cette belle jeunesse attentive son bonheur de se trouver à Paray, sur la terre de France, qui montre la vertu intarissable de ses fils, de cette France qui donna au monde une Jeanne d'Arc et une Marguerite Marie, et qui reste fidèle à sa foi et à ses traditions. Aux milliers de jeunes qui l'écoutent, Monseigneur Roncalli laisse le message de la confidente, c'est-à-dire Marguerite Marie, de la confidente du Sacré-Cœur. Message d'obéissance à l'Église, message de piété vraie, message d'amour. À l'esprit de violence et de haine, les jeunes répondront par le témoignage de l'amitié. À ceux qui craignent, à ceux qui doutent, les jeunes porteront le témoignage de leur confiance, de leur optimisme, de leur jeunesse chrétienne. Je rappelle en même temps que en 47, la France vivait, et ça on le sait, on vivait des périodes extrêmement tourmentées sur le plan politique. Nous sommes à quelques mois à peine des apparitions de l'île Bouchard, dont en fait justement les 70 ans. Et nous savons par les apparitions de l'île Bouchard que la France était en fait en très grand danger au bord de la guerre civile et que la prière des petites filles, des fillettes à qui était apparue Marie à partir du 8 décembre à l'île Bouchard, eh bien, avait sauvé la France de façon inexplicable pour les personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait spirituellement. Mais la Vierge avait bien dit que dès le 9 décembre, la France était sauvée. Donc la guerre civile qu'on pouvait craindre et le mouvement de grève qui alimentait cette crainte a brusquement cessé sans aucune explication. Donc ce n'était pas une période de sérénité. En août 47, déjà donc, lorsqu'il était déjà nonce à Paris, la vie politique était extrêmement mouvementée et chargée de nuages. Et donc cela nous fait dire aussi que Saint Jean XXIII est vraiment quelqu'un à qui nous pouvons confier maintenant aussi notre prière pour la France, pour l'Europe et pour le monde. C'est vraiment un ami particulier de la France. Alors maintenant le compte-rendu continue. À 14h, c'est là que nous arrivons, donc, avenue de Charolles, s'organise un impressionnant cortège. Sur plus d'un kilomètre de long, jeunes gens et jeunes filles se sont placés par rang de 6, est précédé de fanions et de la clique de Saint-Vallier, je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Voici que l'immense colonne s'ébranle au pas cadencé et traverse la ville en chantant à pleine voix sa joie et sa jeunesse. Au monument des morts, une gerbe est offerte aux victimes des grands combats d'hier. Et puis une minute de silence, lourde de prières, chant aux morts de la patrie. Et puis, pendant que le défilé reprend sa marche vers le parc des Chapelains, des centaines de voix chantent. Donc voilà ce qu'on peut lire par rapport à cette journée, enfin c'est un extrait, par rapport à cette journée, ou à certains détails donc de cette journée du 31 août 1947. Maintenant, quelques paroles glanées pour entrer un peu dans la spiritualité de ce grand saint qui a été donné pour notre époque très particulièrement. Voici une parole écrite ou prononcée par le futur saint Jean XXIII. Je veux servir le Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui et à jamais. Je veux que ma dévotion au Sacré-Cœur, cachée dans le Saint-Sacrement, soit le thermomètre de tout mon progrès spirituel. Nous rappelons que Jean XXIII est l'auteur d'un journal d'une âme qu'il a commencé très tôt, déjà comme garçon, puis plus tard comme séminariste, comme jeune prêtre. Ça couvre pratiquement toute son existence et qu'il n'a pas arrêté en tant que pape. Et qu'il y a des perles là-dedans, profondément émouvantes aussi. On voit d'ailleurs qu'il y a un point commun avec Claude Lacolombière. Il avait un combat permanent contre la vaine gloire. Ça peut s'expliquer aussi, il était d'origine très 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 modeste, venant de la campagne, milieu vraiment d'agriculteurs, de fermiers. Et lorsqu'il a commencé à réussir un petit peu, que ce soit dans le domaine de l'éloquence, de la prédication, etc., il a bien vu que la tentation était grande pour lui de se faire un peu valoir. Il y reviendra plusieurs fois dans son journal, et à chaque fois, il fait pénitence. Quelques paroles que j'ai glanées aussi dans un PowerPoint qu'avait fait le père Christophe Advis. Je suppose que c'était au moment de la canonisation de Jean XXIII. Voilà entre autres ce qu'on peut lire. La foi indiscutée, la charité, la confiance absolue dans la providence de Dieu, la commune prière quotidienne, source de grande sérénité, représentaient la richesse la plus grande de la famille du futur pape. Le futur pape, pour toute sa vie, reconnaîtra la valeur de ses vertus qu'il avait appris dans le milieu familial et qu'il définira parmi les choses, et là on le cite, parmi les choses les plus précieuses et importantes qui soutiennent et donnent chaleur aux autres nombreuses choses. Parlant de sa vie, Roncalli dira « Je suis né pauvre et je dois et veux mourir pauvre. Je me plais à bénir le Seigneur pour cette pauvreté humiliante et souvent embarrassante. Elle me fait mieux ressembler à Jésus pauvre et à saint François. » Et puis le petit combat auquel je faisais allusion. « Que ferai-je plus tard ? Serais-je un bon théologien, un juriste éminent, un curé de campagne ou un pauvre prêtre? Que m'importe tout cela? Je dois n'être rien de tout cela, et en même temps plus que tout cela dans le plan de Dieu. Mon Dieu est tout pour moi, mes rêves de réussir, de faire belle figure aux yeux du monde. Le bon Jésus n'oubliera pas de le faire partir en fumée. » Donc, tout ce qui est un petit peu apparence. Ma vie doit être toute d'amour pour Jésus et en même temps totale effusion de bonté et de sacrifice pour chaque âme et pour le monde entier. Ces paroles ont été exprimées par lui une fois qu'il était devenu pape. Donc il dit totale effusion de bonté, de sacrifice pour chaque âme et pour le monde entier. Il avait un sens de la paternité par rapport à l'humanité tout entière. C'est bien cela qui était le moteur de son inspiration. Et dans quelques mots qu'il a prononcés lors de l'ouverture du concile, le concile qui vient de s'ouvrir est comme une aurore resplendissante qui se lève sur l'Église. Et déjà les premiers rayons du soleil levant emplissent nos cœurs de douceur. Tout ici respire la sainteté et porte à la joie. On peut donc dire que le ciel et la terre s'unissent pour célébrer le concile. Là, on voit sa confiance totale, mais surtout sa conviction, sa certitude que cette œuvre n'était vraiment pas la sienne. Que l'Esprit-Saint, en quelque sorte, a fait irruption dans sa pensée, dans ses sentiments, dans sa vie, et une telle certitude, alors qu'il était très humble, et que jamais il n'aurait pu imaginer, même remuer à ce point, la destinée de l'Église. Donc là, on voit vraiment que le concile est une œuvre à deux. D'abord l'Esprit-Saint, mais aussi l'œuvre d'un cœur ou d'une âme qui a décidé de s'ouvrir totalement à cet Esprit-Saint. Et alors, nous écoutons maintenant cette parole prière qui est devenue célèbre et qui, justement, là encore, dans sa confiance et dans sa foi, a été merveilleusement exaucée. Et je vais le citer maintenant, mais nous le faisons vraiment dans l'action de grâce pour cette année 2017 que nous vivons, qui marque les 50 ans du renouveau charismatique. Car s'il n'y avait pas eu Jean XXIII, il n'y aurait peut-être pas eu de renouveau charismatique. Et peut-être aucun d'entre nous ici ne serait ici à Paris en ce moment. Donc nous écoutons cette prière. Ô Saint-Esprit, envoyé par le Père au nom de Jésus, qui assistait l'Église de votre présence et la dirigeait infailliblement. Renouvelez en notre époque, comme pour une nouvelle Pentecôte, vos merveilles. Et voilà encore une parole de lui, une confiance toute thérésienne, Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai toujours été très impressionné et maintenant encore, c'est le pape qui parle là, il était déjà pape. J'ai toujours été très impressionné et maintenant encore par ce petit psaume 130 qui dit « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence comme un petit enfant contre sa mère. » Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Et Jean 23 ajoute, ô que j'aime ces paroles. Alors là, quelque chose dont la radicalité pourrait un petit peu nous faire peur. En ce qui concerne l'humilité, j'éviterai autant que possible de parler de moi à la première personne. Le je et le moi, je dois les fuir comme si c'était des serpents. Alors, moi, je n'en suis pas encore là. Je ne sais pas pour vous. J'arrive pas à remplacer encore complètement le je et le moi. D'ailleurs, lui non plus, soyons justes. Il est le premier, il a fait une révolution, parce que jusque-là, les papes s'adressaient dans leurs lettres officielles et leurs discours toujours par nous, le nous de majesté. Nous avons décidé ceci et cela. Et ça, il a mis fin à ça. Il a décidé de dire je. Donc, vous voyez, il n'est pas très cohérent avec ce qu'il dit là. Bon, mais enfin, c'est... Et alors, à l'approche de sa fin, c'était un lundi de Pentecôte, le 3 juin 1963, voilà ce qu'il dit. Je ne dois pas me faire d'illusions, mais me familiariser avec la pensée de la fin. Non avec l'affolement qui affaiblit, mais avec la confiance qui conserve la ferveur de vivre, de travailler et de servir. Il est donc allé au-devant de la mort avec cette même confiance filiale, mais aussi pastorale, conscient donc qu'il servait dans sa vie comme dans sa mort, dans son acte de mourir, qu'il servait vraiment l'humanité et l'Église. Le pape François, lui, récemment, a recommandé aux pèlerins de conserver l'esprit et l'exemple lumineux de Jean XXIII. Il dit « Approfondissez l'étude de sa vie et de ses écrits, mais surtout imitez sa sainteté. Laissez-vous guider par l'esprit et ne craignez pas les risques. Lui n'avait pas peur d'être docile à l'esprit et d'aller de l'avant dans l'amour de l'Église. Le reste, Dieu le fera. » Je voudrais maintenant dire quelques paroles très profondes de Jean-Paul II. Il est émouvant de savoir que Jean-Paul II a été canonisé le même jour que Jean XXIII, donc par le pape François, le dimanche de la Miséricorde 2014, mais que c'est bien Jean-Paul II qui avait béatifié Jean XXIII en septembre 2000. Alors voilà ce qu'il devait dire dans son homélie lorsqu'il a parlé de Jean XXIII. Nous contemplons aujourd'hui dans la gloire du Seigneur un pontife, Jean XXIII, le pape qui frappa le monde par son comportement affable, duquel transparaissait sa singulière bonté d'âme. Le pape Jean a laissé dans le souvenir de tous l'image d'un visage souriant et de deux bras ouverts pour embrasser le monde entier. Combien de personnes ont été conquises par la simplicité de son âme, liées à une vaste expérience des hommes et des choses. Le souffle de nouveauté qu'il apporta ne concernait pas la doctrine, mais plutôt la façon de l'exposer. C'est un fait, là je fais une parenthèse, l'âge de la miséricorde, on peut dire. Alors, c'est pas nouveau, c'est aussi vieux que la Bible. Mais l'âge de la miséricorde de façon consciente a vraiment commencé avec Jean XXIII et avec sa convocation du Concile. C'est lui-même qui a souligné que l'Église ne devait plus être comme une sorte de forteresse constamment assiégée qui doit se défendre contre les hérésies, contre les attaques de toutes sortes, qu'elle doit vraiment plus devenir mère pleine de tendresse et de miséricorde, capable justement d'entrer en dialogue, et pas sur la défensive, mais dans l'ouverture. Donc les entrailles de miséricorde de l'amour maternel de l'Église ont vraiment été, comme on pourrait dire, publiquement inaugurées pour notre époque par Jean XXIII, précédant ainsi tous les grands gestes que devait poser Jean-Paul II avec le dimanche, la Divine Miséricorde, la canonisation de Sœur Faustine, etc. Donc, la nouveauté ne concernait pas la doctrine, mais la façon de l'exposer. La façon de parler de Jean XXIII et sa façon d'agir possédait un style nouveau. L'attitude de sympathie avec laquelle il approchait les personnes communes et les puissants de la terre était nouvelle. Ce fut dans cet esprit qu'il lança le Concile œcuménique Vatican II, avec lequel il ouvrit une nouvelle page de l'histoire de l'Église. Les chrétiens se sentirent appelés à annoncer l'Évangile avec un courage renouvelé et une plus grande attention aux signes des temps. Le Concile fut véritablement une intuition prophétique de ce pontife âgé qui inaugura, au milieu de nombreuses difficultés, une saison d'espérance pour les chrétiens et pour l'humanité. Lors des derniers moments de son existence terrestre, il confia son testament à l'Église, et là Jean-Paul II cite Jean 23, « Ce qui compte le plus dans la vie est Jésus-Christ béni, sa Sainte Église, son Évangile, la vérité et la bonté. » Nous voulons aujourd'hui aussi accueillir ce testament, alors que nous rendons gloire à Dieu pour nous l'avoir donné comme pasteur. Alors maintenant, je voudrais, pour conclure, on va conclure avec ça, vous dire, réciter le fameux décalogue de la sérénité, 10 paroles de Jean 23 sur la sérénité. Je le fais un petit peu en tremblant, parce que lui, il dit que c'est à faire chaque jour. Il ne faut pas vouloir le faire toute sa vie, on n'y arrivera pas. Mais rien que pour aujourd'hui. En cela, il est un peu inspiré par Sainte Thérèse, justement. Alors, je le fais en tremblant parce que je suis loin d'arriver à faire les 10 rien que pour aujourd'hui. Peut-être j'en arrive à faire une fois par mois, enfin peut-être j'exagère, mais enfin je vous le dis à vous quand même, ça vaut la peine d'être entendu. Donc, premier, rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Ensuite, rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi-même. Je serai heureux rien qu'aujourd'hui, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à la bonne lecture en me souvenant que comme la nourriture est nécessaire au corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire. Et si j'étais offensé, j'essaierai que personne ne le sache. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai et me garderai de 2 calamités, la hâte et l'indécision. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas, et tout spécialement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. Je suis en mesure de le faire bien pendant 12 heures, ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant. Donc voilà ces paroles, ce fameux décalogue de la sérénité. Simple, mais quand même très exigeant. Eh bien, nous terminons avec cette simple invocation. Saint Jean 23, prie pour nous. Saint Jean 23. Prie pour nous.